Merci Margot Delpierre, on vous retrouve à 9h pour le journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. On entend des choses affreuses sur le baccalauréat, inefficace, inutile, il coûte cher à organiser, version la plus pessimiste. Il est en danger, il faut le réformer pour le sauver, version plus douce. Oui, mais voilà, nous sommes attachés à cet examen bicentenaire depuis mercredi dernier et l'épreuve de philo, près de 700 000 candidats passent le bac. Le bac, comme la réforme du collège ou les rythmes scolaires, sont toujours très commentés. Attention, sujets sensibles qui peuvent entraîner pas mal de manifestations. Baccalauréat, réforme du collège, comment la presse s'empare-t-elle de ces questions? Bref, savons-nous toujours ce que nous désirons? Sujet du bac philo en terminale ES, on en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. Véronique Fèvre, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à BFM TV en charge de l'éducation. Isabelle de Trême, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à l'étudiant et votre magazine consacre ce mois-ci un dossier avec ou sans bac, où s'inscrire en juillet. Marie-Estelle Pêche, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au Figaro, spécialiste éducation, et Hakim Kasmi. Bonjour Hakim.
Bonjour Frédéric.
Grand reporter à France Culture et spécialiste notamment de l'éducation. Notre regard extérieur qui nous accompagne aujourd'hui, Jean-Marie Charon, sociologue des médias. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Et en seconde partie d'émission, un pas de côté, nous recevrons Marie-France Etchegoin, journaliste pour son livre Marseille, le roman vrai. Et puis bien sûr, le rendez-vous clin d'œil de Yacine Bouzard. Dans les coulisses de l'émission, Chloé Leblond, Mathias Mégy, Vincent Abouchard. Avec aux manettes aujourd'hui, Yanis Djoudad. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans Secret des Sources.
Moi, ce sujet, il m'a inspiré. J'avais pas trop révisé pour vous dire, mais...
La philosophie, c'est pas notre point fort, mais on va faire comme on peut, hein, c'est sûr. On va faire de notre mieux et on va surtout réviser pour les mathématiques, la physique. C'est pas notre spécialité, c'est un petit coefficient, mais bon, on va limiter la casse, hein, quand même.
Moi, je mise pas tout sur cette matière, je préfère viser sur l'éco, les maths et l'histoire, quoi.
Un petit peu stressé quand même, parce qu'on sait pas trop à quoi s'attendre et tout, mais ça va. Après, ça s'enchaîne facilement, mais là, la première épreuve, je pense c'est là où on a le plus de stress.
Et on attend ça depuis des années, donc du coup c'est normal qu'on soit stressé, mais sinon ça va.
Je pense que ça devrait aller, ouais. Moi j'ai regardé l'Euro, ouais. C'était un bon match hier soir.
Le secret des sources.
Voilà des candidats interrogés mercredi dernier avant le début de l'épreuve de philo et certains, vous l'avez entendu, ont regardé l'Euro de football tout en révisant. Le baccalauréat, tous les ans au mois de juin, c'est ce que l'on appelle un marronnier journalistique. Véronique Fèvre de BFM TV, comment avez-vous couvert le bac cette année ?
Eh bien, on a fait les sujets traditionnels, on n'a pas pu faire le plus âgé des candidats, on avait les profils particuliers,
ouais.
On a fait les triplés, je pense que c'est...
Vous avez fait les triplés?
Oui, oui, je pense que c'est la dernière fois
qu'on
va faire les triplés. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait réviser en regardant l'Euro, on n'a pas fait réviser du coup en regardant les matchs de Roland-Garros. On a fait réviser ou militer. Ça, c'était les nouveautés cette année. Oui, c'est un marronnier. J'avoue qu'il a eu moins de place que d'habitude en raison de l'actualité qui était quand même très lourde. Il y avait les inondations, etc. Ça nous a pris beaucoup de JRI. Et on avait beaucoup de mal à aller les tourner.
JRI, journaliste reporter d'image.
Absolument.
Hein. Voilà. Marie-Estelle Pêche pour Le Figaro. Mercredi dernier, donc jour de l'ouverture du bac par la philo. Vous consacrez une double page sur le bac, une institution en danger qu'il faut réformer, avec cinq raisons en tout cas de sauver le bac. Donc un traitement plutôt positif sur le bac par Le Figaro.
Positif, je n'irai pas jusque-là. Je dirais simplement que le bac, c'est une institution en France. C'est le premier examen qui permet d'accéder à l'enseignement supérieur. C'est le premier examen aussi auquel se frottent les élèves. Donc, ça reste très important et assez stressant pour beaucoup d'entre eux. Maintenant, on sait qu'il coûte cher. On sait qu'il y a énormément d'épreuves. On a même des options de surf au bac, enfin, qui mobilisent énormément de profs. Du coup, on a toute une partie des élèves de collège qui n'ont pas cours au mois de juin. Il faut quand même le souligner. La préoccupation des parents au mois de juin, c'est souvent de savoir comment caser leurs enfants en réalité. Mmh, mmh. Donc il y a aussi des conséquences assez négatives sur le bac. Et puis le bac ne permet pas de sélectionner puisque finalement la sélection se passe en amont. Les classes préparatoires, les grandes écoles sélectionnent en amont. Donc le bac, à quoi ça sert? On sait que ça permet d'accéder à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire essentiellement à l'université. Mais ce ne sont pas sur la base des notes du bac finalement qu'on sélectionne. C'est sur tout ce qui s'est passé en amont. Au lycée, les notes de première, de terminale qui vont être prises en compte. Donc effectivement, on peut se demander à quoi il sert. Et la réponse n'est pas claire. Faut-il diminuer le nombre d'épreuves? C'est une possibilité qui est souvent évoquée. Faut-il passer le bac en contrôle continu? On sait qu'un certain nombre de ministres se sont cassés les dents en tentant de faire passer cette idée. Il y avait François Fillon en 2005 notamment, le dernier je crois, qui avait tenté la faire. Depuis, on n'entend absolument plus parler d'ailleurs de cette idée d'un contrôle continu pour le bac, assez curieusement.
Isabelle de Trême de l'étudiant, vous nous dites dans le numéro de cet été de votre magazine qu'avec ou sans bac, rien n'est bien sûr perdu et qu'on peut poursuivre ses études.
Il n'empêche qu'il faut quand même mieux l'avoir, le bac.
Mmh. Oui, parce que le premier conseil, c'est redoubler.
Oui, et alors on sait qu'un jeune sur deux qui rate son bac ne le repasse pas l'année suivante. C'est dommage parce qu'effectivement, il a de fortes chances de pouvoir l'obtenir s'il le passe une deuxième fois. Encore plus cette année, puisqu'effectivement, ils pourront, les lycéens qui auront échoué au bac pourront conserver leurs notes supérieures à la moyenne.
Hakim Kasmi pour France Culture, vous, mercredi dernier, donc jour de l'épreuve de philo, vous êtes intéressé au bac à l'hôpital.
Alors oui, c'était notre dossier du jour, hein, ce qu'on appelle chez nous le choix de la rédaction. Et à chaque fois, c'est toujours un défi, hein, que ce soit pour le bac ou pour la rentrée. On essaie toujours de trouver un peu une idée originale et de ne pas forcément tomber dans un marronnier pour que l'auditeur puisse avoir le plus d'informations, en l'occurrence sur le bac. Effectivement, cette année, c'était un vieux projet que j'avais depuis longtemps, mais les autorisations ne sont pas faciles à avoir. Voilà, j'avais déjà voulu le faire l'année dernière. On avait fait aussi le bac en prison l'année dernière, qui avait été un reportage aussi très touchant. Et là, bah oui, effectivement, je suis parti donc à Marseille, à l'hôpital de la Timone. Pourquoi la Timone? Eh bien, tout simplement parce que c'est le troisième hôpital pour enfants en Europe. Et donc, il y a 17 000 enfants scolarisés chaque année. Il y a 1500 enfants scolarisés et 17 000 enfants qui sont à la Timone pour être soignés. Donc, 1500 élèves scolarisés, c'est beaucoup. C'est du primaire à la terminale. Effectivement, j'ai rencontré des gens qui avaient des maladies graves, qui avaient des cancers, des leucémies, mais qui ont été... je dirais d'un très grand courage et surtout d'une grande humilité. Et je vous cache pas que quand rentrant à la rédaction, j'étais très ému parce que ce sont des personnes qui des fois ont leurs jours qui sont comptés, voilà, et qui malgré tout gardent un moral d'acier et surtout ont une très grande maturité. Et ce qui est important de comprendre, c'est que pour ces personnes-là, on peut se dire elles sont malades, le plus important pour elles, c'est de se soigner, mais en fait pour ces personnes-là, le bac est un objectif et une raison de vivre et de revenir dans la vie de tous les jours. En fait, pour eux, c'est une manière d'oublier les traitements et la maladie. Donc un reportage effectivement très poignant.
Voilà. Le reportage, le choix de la rédaction diffusé mercredi dernier, qu'on peut réécouter bien sûr sur le site franceculture.fr. Alors vous parliez du coût du bac, c'est vrai que c'est une des critiques que je trouve on lit beaucoup cette année, peut-être par rapport aux autres années. C'est un angle d'attaque, Isabelle de Trême, vous dites quoi, c'est 80 euros.
Ça c'est le montant fourni par l'éducation nationale. En réalité, c'est bien plus que ça, puisqu'effectivement il y a toutes les heures de cours perdues du fait de l'organisation du bac. Et donc, il y a une estimation qui se situe au niveau de 140 euros à peu près. Et le SNPDEN, qui est le principal syndicat des chefs d'établissement, qui l'avait estimé à 1,5 milliard d'euros, le coût du bac. Je crois qu'il y a quand même un consensus sur l'idée qu'il faut réformer le bac. C'est que tout le monde a conscience qu'effectivement, il est extrêmement coûteux. Il n'est pas tout à fait satisfaisant. On l'a vu effectivement que l'abondance du nombre d'options fait que des élèves obtiennent le bac avec plus de 20 sur 20. Que parfois, certains l'obtiennent avec des notes dans les matières principales inférieures à la moyenne. Donc, ce qui pose une question sur le sens du bac. Mais de là à le supprimer, c'est pas du tout envisageable.
Véronique Fèvre, un bac avec 90% de réussite et des consignes d'indulgence données aux examinateurs est-il toujours aussi prestigieux?
Il n'est peut-être pas aussi prestigieux. C'est une vraie question sur le fait qu'il représente toujours le premier diplôme du supérieur. Parce qu'on le sait, l'enjeu c'est aussi ça. C'est-à-dire les profs de fac qui nous disent, voilà, nous on voit arriver des élèves qui n'ont pas le niveau et pourtant ils ont le bac, ils n'ont pas le niveau. Ça c'est, il y avait un vrai problème dans ce symbole-là. Mais en même temps, quand on a 90%, il y en a quand même 10% qui ne l'ont pas. Et pour cela, alors ça veut dire qu'on les a laissés passer en première, en terminale, et qu'à la fin on leur dit, non, en fait non. Alors il y a eu un problème d'orientation, et est-ce qu'on peut les laisser comme ça, partir comme ça, sans rien, sans rien du tout?
Il y a moins de 90% d'une génération qui obtient le bac. Hein. Attention, c'est bien 70% d'une génération qui obtient le bac. Il y a une grande différence selon les bacs. C'est que finalement, parmi les bacheliers, seuls 50% décrochent un bac général qui, a priori, est le bac qui permet la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Le reste, l'impression qu'on a qu'il y a de plus en plus de jeunes bacheliers, c'est vrai, mais c'est un petit peu faussé puisque 30% des bacheliers sont des bacheliers professionnels. Et n'oublions pas que le bac professionnel a vocation à une insertion professionnelle immédiate, finalement.
Oui, mais sauf...
Pêche, oui. Est-ce qu'il y a une baisse de niveau, du coup?
Sauf que ces bacheliers technologiques et professionnels qui obtiennent le bac, on les retrouve aussi à l'université parce que le bac leur ouvre la porte à l'université et ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'ils sont très souvent en échec sur tous les bacheliers professionnels.
Vous dites que personne n'en veut de ces bacheliers pro.
En tout cas, on n'en veut pas à la fac. Ouais. On en veut assez peu à la fac. Alors, certains, effectivement, en raison d'erreurs de parcours, finissent par réussir à la fac, mais ils sont quand même très peu nombreux. On a créé ces bacs, effectivement, pour augmenter le taux d'accès d'une génération au niveau du bac. On a créé le bac professionnel, le bac technologique, mais c'est la question de l'orientation qui sous-tend toute la question du bac. Effectivement, il n'y a pas un bac, il y a plusieurs bacs.
Vous le disiez vous-même, l'orientation se fait avant le bac.
La sélection dans les fameuses filières sélectives, les classes préparatoires aux grandes écoles, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs qui sont post-bac, elles recrutent avant le bac sur les résultats des années précédentes.
Hakim Kasmi, baisse de niveau, baccalauréat ou pas?
Alors, baisse de niveau, ça dépend, c'est un discours récurrent, mais pour revenir sur le bac professionnel tout d'abord,
oui.
Effectivement, aujourd'hui, on n'a que 3% des bacheliers professionnels qui obtiennent une licence. Alors, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Les bacs professionnels sont faits surtout pour aller en BTS, voire en UT, et très souvent, il n'y a pas assez de place dans ces filières-là, et donc, du coup, on a des bacheliers professionnels qui se retrouvent à l'université, souvent par défaut. C'est le principal problème, c'est la question des places. Alors, le ministère va faire un effort dans les prochaines années, avec 2000 places supplémentaires en BTS en priorité pour les bacheliers professionnels. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'exclure les bacheliers professionnels. Le problème est que la formation du bac professionnel ne correspond pas à ce que l'on fait à l'université. À l'université, on fait des dissertations, des commentaires de texte, ce qui n'est pas le cas. En bac professionnel, on fait surtout des études pour préparer un métier. Le problème vient de là. Alors après, effectivement, on peut toujours se rattraper, mais effectivement, le problème vient surtout du fait que la formation suivie en bac professionnel n'est pas forcément liée à celle que l'on fait à l'université.
Enfin, le problème, c'est aussi que personne n'en veut, les bacs professionnels, et y compris en BTS. C'est-à-dire que les dirigeants des BTS et les professeurs des BTS, ils préfèrent très largement récupérer des gens qui ont un bac général.
Un bac général, oui. Non, Isabelle Letraigne.
Ou un bac technologique.
La question du bac... le problème du bac, c'est qu'effectivement, il a deux objectifs qui sont guère compatibles, finalement. À la fois certifier un niveau qu'on est censé obtenir à la fin des études secondaires, auquel cas on devrait tendre vers les 100% de réussite. Et en même temps, on lui demande d'être un examen d'entrée dans l'enseignement supérieur. Et c'est là où ça paraît pas possible, et notamment pour les bacs professionnels. Concernant les bacs professionnels, il y a quand même un gros effort effectivement fait pour flécher un peu les parcours des bacs professionnels vers les sections techniciennes supérieures, les STS, avec les quotas qui sont imposés de façon de plus en plus ferme pour réserver des places aux bacheliers professionnels dans ces sections et éviter de les retrouver dans les universités.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Avec nos invités Isabelle Letraigne, Marie-Estelle Pêche, Véronique Fèvre et Hakim Kasmi, et moi je vais défendre le bac L, autrefois le bac A, qui reste un bon bac. Vous êtes d'accord avec moi, Véronique Fèvre?
Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai trouvé le niveau difficile.
Oui, c'était difficile. Jean-Marie Charon, notre regard extérieur, un sociologue des médias. La presse s'intéresse toujours beaucoup au baccalauréat. Et de quoi le retour du bac est-il le signe, Jean-Marie? Oui, donc chaque année, à cette époque, le bac revient dans les médias, c'est dans l'information, mais c'est dans les programmes. Sur France Culture, par exemple, on a préparé déjà le bac philo, histoire géo, sciences, etc., dès le mois de mai. Et mercredi, à 17h, l'application du Monde sur mon smartphone m'envoie les corrigés en vidéo des sujets soumis aux candidats, des séries, etc., etc. Je regarde au même moment où en sont les sites d'information des principaux médias et on a également les sujets et les corrigés. En fait, nombre de sujets éducation font partie de ces sujets qui reviennent cycliquement. Alors on a la rentrée, on a les vacances scolaires, on a les classements des lycées. Et bien sûr, on a le bac, et comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie de ces marronniers. Mais il me semble qu'il y a plus que cela. Il est possible d'y voir, je crois, un phénomène plus profond, pour le récepteur, en tout cas, de l'information, le public. Je veux parler de la manifestation d'un rôle qui s'élargit sans cesse pour les médias. En fait, nous vivons depuis plusieurs décennies le déclin de nombre de modes de socialisation hein, qui permettaient à chacun de se situer dans son environnement et de se guider dans son quotidien. Je veux parler de la famille hein, qui est aujourd'hui réduite au couple, voire monoparental. On peut parler des religions, des syndicats, des partis, sans parler des collectifs de travail, de voisinage. Or, c'est eux qui, jadis, nous renseignaient, c'est eux qui nous accompagnaient dans le réglage de notre vie au jour le jour. Alors, cet espace, il est progressivement investi par les médias. Cela se traduit, disons, par le succès des magazines, des émissions thématiques, voire des salons, comme le fait l'étudiant, et maintenant, évidemment, des blogs, des sites spécialisés, voire des réseaux sociaux. Cela implique que les médias jouent le même rôle d'accompagnement de notre quotidien. Alors pour l'éducation, ça veut dire quelle formation suivre, on en a eu quelques sujets tout à l'heure, hein. Quelle formation suivre, quel choix pour la première langue, comment préparer tel examen, quelle option choisir, comment accéder à la fac. Et de la même manière, les médias nous conseillent pour nous dire comment se soigner, se nourrir, gérer notre budget, remplir nos déclarations d'impôts, à quelle heure partir en week-end, etc. L'information et les médias sont devenus en fait une ressource. Parfois la seule, parfois la principale, souvent la plus bienveillante. D'aucuns parleraient d'un journalisme de solution. Face à cette attente, les journalistes n'ont plus affaire au même public en même temps. Une partie grandissante de ce public est éduquée, autant que les journalistes en fait, bien souvent. Elle sait rechercher les informations utiles, elle surfe de média en média, prend appui sur les moteurs de recherche, sélectionne les recommandations sur les réseaux sociaux. C'est dire qu'autant le niveau d'attente est grand dans le public vis-à-vis du journalisme de solution, autant le niveau d'exigence, ce qui n'est pas tout à fait pareil, l'attente et l'exigence est élevé parce que l'information est une ressource cruciale. Parce que le public dispose d'un niveau de compétence élevé, il n'y a aucune tolérance face aux erreurs, en se trompant, en étant imprécis, en faisant un contresens, un média me met en danger. Alors à cet égard, il me semble qu'il y a un contraste entre cette exigence de fiabilité et le traitement de débats souvent idéologisés, redondants, ça a été dit tout à l'heure, sur l'école, où nombre d'entre nous décrochent face aux stéréotypes du type « c'était mieux avant »,« le niveau baisse »,« nous sommes plus mauvais que les autres », etc. Ces débats d'experts autoproclamés ou non ont grande chance de laisser le public, de lasser le public. Ce public, pourtant, répond présent chaque printemps pour suivre la préparation et le déroulement du bac. Merci Jean-Marie Charon. Vous avez une mention, non, au bac?
Oui.
Oui, un oui tout timide.
Mais c'était le bac philo à l'époque.
Donc c'est quand on en parlait du bac L.
Moi je pense qu'au contraire, ça marche très bien, ces débats sur le côté décliniste, etc. Malheureusement, ça marche très très bien et qu'on a énormément de clics et de commentaires et les gens se passionnent. Et même moi, je me dis à chaque fois, mais c'est pas possible, ça va pas, on fait encore un sujet là-dessus, ça va marcher, ça va... Ça marche très très bien. Non, il y a une vraie attente pour ces sujets-là et beaucoup de gens qui pensent comme ça.
Hakim Kasmi, vous faisiez un parallèle entre l'éducation nationale et l'euro.
Alors, surtout dire que l'éducation nationale, comme le nucléaire, sont des sujets qui sont très clivants en fait. Donc on s'en rend bien compte, hein, quand on est journaliste, notamment France Culture, on est très écouté par les enseignants, on les remercie au passage. Et c'est vrai que des fois, on reçoit des mails un peu durs de la part des enseignants qui nous écrivent, parce que l'éducation, c'est un sujet très clivant. On le voit même nous en conférence de rédaction, avec vous, Frédéric Barret, autour de la table, chaque matin, quand on prépare les journaux, tout le monde a son avis, effectivement. La petite comparaison avec le football, c'est qu'effectivement, pour l'éducation, on a 65 millions de sélectionneurs, et pour l'éducation, c'est pareil, on a 65 millions de commentaires, où chacun a son avis sur le bac, sur la réforme du collège, sur l'atmosphère scolaire.
Vous avez raison, notre objectif et notre ambition, ça doit être de permettre à chaque enfant, quelle que soit la famille dont il provient, de pouvoir prendre l'ascenseur social en passant par l'école. Est-ce que c'est ce que fait aujourd'hui le collège tel qu'on le connaît ? Lorsque un enfant sur quatre sort du collège sans maîtriser les fondamentaux de français, de maths ou d'histoire, est-ce que vous pouvez vous dire satisfait du statu quo ? Nous réformons le collège pour mettre fin à un collège à deux vitesses, dans lequel certaines propositions n'étaient faites qu'à 15% d'élèves, là où nous voulons passer à 100% de collégiens concernés.
On ne comprend pas. La ministre qui nous dit qu'elle est pour l'égalité, pour donner plus de droits, plus de chances aux élèves, et là en fait c'est tout le contraire qui va se passer. Et c'est pour ça qu'on est tous mobilisés contre la réforme du collège.
C'est quand même un gouvernement de gauche. Donc on s'attendait à ce qu'ils prennent fait et cause pour les enfants des classes quand même socialement et culturellement défavorisées. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Ce sont eux qui vont payer vraiment le prix de cette réforme. C'est désolant.
Voilà Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale en mai 2015, qui défendait sa réforme du collège, et deux professeurs de Rennes lors de la journée d'action contre la réforme du collège en janvier dernier. On va entendre François Bayrou, président du Modem et ancien ministre de l'Éducation nationale, en janvier dernier sur France Inter.
Prenez cette affaire de la suppression des classes bilingues. Le ministère a décidé que les classes bilingues, qui étaient hier offertes sur l'ensemble du territoire, elles seront conservées à 100% à Paris et elles seront supprimées partout ailleurs en France, dans de très grandes largeurs. Je donne un exemple, j'ai lu qu'à Nantes, il en restait 3 sur 60. Et que ce soit un gouvernement qui se dise de gauche, qui installe un privilège de résidence, parce qu'on est dans la bonne ville, parce qu'on connaît au fond les décideurs. Et je vous assure qu'il n'est pas étonnant que les enseignants français se sentent à ce point heurtés dans leur conscience.
Véronique Fèvre de BFM TV, donc cette réforme du collège entre en vigueur à la rentrée prochaine. Lorsqu'on est journaliste, on trouve que des mécontents ou pas que ?
Quasi. À part, quand même, moi, je trouve. Si, c'est ce qu'on entend le plus. Je n'ai pas dit que je trouvais pas des gens contents, mais je pense aussi que c'est une réforme qui fait peur aussi. Donc, forcément, on entend toujours davantage les mécontents.
Isabelle de Trême de l'étudiant.
On entend les mécontents aussi parce que ceux qui sont les plus mécontents, finalement, ont accès assez facilement aux médias. C'est ceux qui sont les mieux organisés pour se faire entendre. Et quand on va vraiment sur le terrain, on s'aperçoit que finalement, cette réforme des collèges, qui n'est pas si ambitieuse, mais qui a été un petit peu instrumentalisée, il y a quand même beaucoup d'enseignants qui sont déjà emparés, je pense notamment aux EPI, et qui existent déjà dans de nombreux établissements, notamment les établissements en REP. Et finalement, ils ne sont pas hostiles. Il y en a beaucoup qui adhèrent, mais effectivement, ceux qu'on entend le plus, ce sont ceux qui sont les mieux organisés et qui sont contre.
Moi, je dirais plutôt que c'est...
Marie-Estelle Pêche.
Je dirais plutôt que c'est... qu'il y a quand même une majorité de mécontents. Ou en tout cas, des gens qui sont vraiment opposés jusqu'à descendre dans la rue. Oui, évidemment, ils sont minoritaires, ceux-là. Mais des gens inquiets, qui se posent beaucoup de questions sur leur métier, sur le sens de leur métier en raison de cette réforme. Des gens inquiets, il y en a. Je pense que ceux-là, pour le coup, ils sont très largement majoritaires. Ouais. Des gens qui sont ravis de cette réforme, franchement, j'en ai pas rencontré, moi. À part peut-être chez certains syndicalistes proches du ministère, j'en ai pas rencontré.
Hakim Kasmi, c'est la fin d'un collège à deux vitesses, hein, comme le dit la ministre.
Alors, ça, on verra à la rentrée, mais pour rejoindre ce que disait Marie-Estelle, effectivement, s'il n'y a pas que des mécontents, en tout cas, il y a beaucoup de gens inquiets, ça c'est sûr. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup vu en reportage, en fait. Hein. Il y en a qui sont prêts à faire la réforme, mais qui se posent beaucoup de questions, parce que le problème de cette réforme, c'est que finalement, on a voulu l'imposer rapidement, qu'il n'y a pas eu forcément de concertation, parce qu'à travers ça, il y a aussi une volonté politique. On arrive à la fin du quinquennat, et donc avec ce cahier des charges, hein, qu'avait la ministre à remplir, ainsi que ses prédécesseurs qui étaient là avant elle. Et donc, on le voit, il y a ce passage en force qui choque plus, je pense, plus que la réforme. Les enseignants ne sont pas forcément contre le fait d'évoluer dans l'enseignement, dans la pédagogie, mais c'est surtout ce passage en force qui ne passe pas chez eux.
Mais franchement, il y a des points qui paraissent difficiles à défendre. On entendait François Bayrou sur les classes bilingues.
C'est effectivement assez. C'est-à-dire qu'en fait, elle a initialement, effectivement, les classes bilangues devaient totalement disparaître sous prétexte qu'elles étaient réservées à une fraction de la population privilégiée. Et en compensation, on avance une deuxième langue vivante qui est enseignée dès la cinquième au lieu de la quatrième. Voilà. Sauf qu'évidemment, ça a beaucoup grogné, notamment en Allemagne. Les profs d'allemand qui ont dit, en fait, les bilangues, elles ont été créées pour sauver l'allemand. Donc, si on supprime les bilangues, plus personne ne fera d'allemand.
Le gouvernement allemand s'est inquiété également.
Le gouvernement allemand s'est inquiété. L'ambassadrice d'Allemagne est montée au créneau. Bref, du coup, on est revenu en arrière. Et effectivement, comme d'habitude, Paris s'en sort très bien, comme par hasard. Et
là, clairement, la ministre est extrêmement maladroite sur cette réforme. Parce que finalement, en annonçant la suppression des classes bilangues, et en annonçant aussi, en remettant en question l'option de latin et grec, elle s'est vraiment mis les enseignants à dos, alors que finalement le cœur de la réforme qui est ce que sont les EPI et l'autonomie, les 20% d'autonomie, ce qui est énorme, accordé aux...
EPI, Isabelle de Trême.
Alors ce sont les enseignements pratiques interdisciplinaires. Ouais. Et l'autonomie accordée aux établissements, c'est-à-dire que 20% du temps scolaire est à la charge des établissements. Ils en font un peu ce qu'ils veulent, ce qui est vraiment révolutionnaire. Finalement, ça, on en a très peu parlé, et ce en quoi elle était très maladroite.
Et puis sur les bilans, il y avait un vrai problème. C'est pour beaucoup de collèges qui étaient en éducation prioritaire, c'était un moyen, les bilingues, de continuer à accueillir des populations qui pouvaient être un peu...
Des classes moyennes
qui pouvaient être un peu effrayées par endroits, qui hésitaient à aller dans le privé. Bon, alors s'il y avait la bilingue, bon, on y allait.
Mais justement, on parlait du privé, on n'ouvre pas un boulevard au privé sur des enseignements des langues.
Oui et non, parce que le privé est obligé.
Pêche, Hakim Kasmi.
Le privé doit appliquer cette réforme tout autant que le public, donc la question se pose pas vraiment. Après, on a certains établissements privés effectivement qui sont montés au créneau et qui sont assez furieux vis-à-vis de cette réforme et qui moi m'ont clairement dit qu'ils allaient la contourner autant qu'ils pouvaient. Que il y en a un qui m'a dit on va faire un voyage à Rome et ça va se transformer en EPI. Voilà, ça va être ça l'EPI.
Hakim Kasmi.
Oui, effectivement, pour être parti dans le privé, cette année, pour rejoindre ce que dit Marie-Estelle, le privé, certes, notamment les établissements sous contrat, doivent appliquer la réforme telle qu'elle, comme dans le public, sauf qu'ils ont un peu plus de marge de manœuvre au sens où ils peuvent toujours rajouter des heures supplémentaires. Mmh. Ça, ils ont le droit de le faire. Et moi, certains proviseurs m'ont déjà dit qu'effectivement, il y avait une très forte demande pour contourner ce problème des classes bilingues et qu'ils allaient rajouter tout simplement des cours d'allemand et d'anglais.
En faisant payer les parents.
La philosophie, quand même, de cette réforme, c'est l'égalité pour tous au collège. Est-ce que ça aurait été plus simple de multiplier le nombre de classes euros et de classes bilingues
pour une partie de ça coûte cher, il n'y a pas du tout des moyens de
ça,
faire.
Et mine de rien, ça ne concerne effectivement qu'une minorité d'élèves, malgré tout. Donc si on veut réformer...
275 000 élèves en section européenne à la rentrée 2010. C'est plutôt bien.
Oui, c'est bien, c'est très bien. Mais on ne peut pas généraliser les classes européennes parce qu'encore une fois, ça coûte trop cher.
C'est-à-dire que ces élèves qui bénéficient des bilingues ont des heures en plus. Ceux qui sont en difficulté n'ont pas d'heures en plus. Et ça, c'est ça l'enjeu de cette réforme du collège, c'est comment aider les 15% qui arrivent en 6e et qui ont des difficultés à lire. Donc l'autonomie, les 20%, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir dire, bon, on va mettre la gomme pour aider ceux qui sont en difficulté.
Justement, en 6e, il y aura ces fameuses heures. Il y a 2 à 3 heures par semaine pour aider justement les élèves en difficulté. Ce qui fait bondir les proviseurs des établissements où les élèves sont bons. Parce que moi, ceux que j'ai vus m'ont dit, voilà, moi, ces heures, on me les impose, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je vais envoyer mes élèves jouer au ping-pong parce qu'ils n'ont pas besoin forcément d'avoir de soutien scolaire.
Oui, c'est ce qui revient beaucoup dans le discours des proviseurs. C'est de dire, pourquoi est-ce qu'on impose cette réforme à tout le monde finalement? Alors qu'on aurait pu, on aurait pu effectivement cibler certains établissements, ceux qui ont vraiment besoin, etc. Pourquoi imposer tout la même chose à tout le monde?
Sur cette problématique de l'égalité pour tous au collège, on est tous d'accord, hein. C'est magnifique, mais c'est compliqué, c'est utopique. Hakim Kasmi, l'inégalité à l'école, elle démarre dans le quartier où vous naissez. Quartier ghetto, école ghetto.
Alors malheureusement, en grande partie, parce qu'on voilà, sait tous que forcément, si on est né au Framoisan, ou qu'on soit à Saint-Germain-en-Laye, ou dans ces arrondissements de Paris, dans l'Est parisien, on n'aura pas toujours la même qualité d'enseignement. Et c'est là qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est que, alors cette réforme, où elle peut être intéressante, c'est que Najat Vallaud-Belkacem dit vouloir créer plus de mixité. Aujourd'hui, le problème, il est là, c'est que, on a beau rajouter toutes les heures que l'on veut, si les enfants ne sont pas mélangés entre eux, il n'y a pas cette volonté d'aller l'un vers l'autre, et surtout cette volonté d'apprendre à se connaître aujourd'hui. On a de grands clivages entre les enfants de l'Est parisien et ceux qui sont en banlieue. Et forcément, quand on a des parents cadres ou des parents enseignants, on n'a pas toujours les mêmes chances de réussir que quand on a des parents qui sont ouvriers, qui partent très tôt le matin, qui entrent tard le soir. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, le problème, je pense, au-delà de la réforme, est un problème de mixité à l'école.
Ce qui est compliqué, c'est qu'on a un dogme aussi sur l'interdisciplinarité quand même qui traverse toute cette réforme. C'est-à-dire que l'interdisciplinarité, on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga qui va sauver, qui va permettre de donner l'égalité à tout le monde, etc. Donc maintenant, on met des EPI dans les classes. Donc on va faire un projet sur Sinbad le marin avec du français et de l'histoire, etc. Bon, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, ça se fait depuis très longtemps. En réalité, on n'a rien inventé. Il y avait les itinéraires de découverte avant. Moi, j'ai plein de copains profs qui font ça depuis très longtemps dans leur collège. Là, le problème, c'est qu'on le systématise, c'est obligatoire.
Isabelle Le Trémeux, dernier mot.
Et on force des profs.
EPI, cette interdisciplinarité, elle a fait ses preuves, notamment dans les réseaux, dans les établissements en zone sensible. C'est-à-dire qu'il y a des élèves en difficulté, même dans les très bons établissements. Déjà, première chose, et en plus, c'est très peu d'heures, finalement. Et c'est que les enseignants sont très attachés à leur discipline. On a une approche disciplinaire, on les recrute d'abord sur la discipline.
Alors, c'est vrai, mais peut-être que c'est ça aussi. On a des profs qui sont effectivement très axés sur leur discipline et qui se sentent heurtés dans leur conscience de prof et ils sont complètement perdus en fait avec cette réforme.
Mais il y a aussi une volonté de les faire bouger parce que vous avez des profs qui font d'interdisciplinarité, on le sait, qui sont hyper ouverts, travaillent tous en commun, puis vous avez des profs qui sont tout seuls dans leur classe et ça va pas bien. Et là, personne ne le voit. Personne ne réussit à intervenir. Donc l'interdisciplinarité, me disaient certains principaux, ça va aussi permettre d'ouvrir les portes et de permettre d'aider aussi ces professeurs.
Une aide entre profs.
Bien sûr, c'est important. Oui.
Hakim Kasmi, parce qu'on va en reparler de la réforme du collège en septembre.
Pour préparer la rentrée de septembre, j'ai eu l'occasion de partir il y a quelques semaines à Tours, dans un établissement pilote. On applique déjà ce qu'on appelle chez eux les projets, qui sont déjà en fait les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Et ce que m'ont dit certains enseignants, c'est que grâce aux EPI, en fait, ils ont pu voir certains élèves se révéler. Parce que dans les EPI, on ne fait pas que de la théorie, on voit aussi sur le terrain, notamment ceux que j'ai vus, on fait un web documentaire sur la ville de Tours, ils ont rencontré des professionnels. Effectivement, des profs m'ont dit, cet enfant-là, il est très timide, il est en difficulté. Mais là, comme il était dans le concret, il était il a vu un boucher, il a vu un charcutier, il a vu une libraire, et là forcément, elle m'a dit, cette enseignante, qu'effectivement, ça m'a permis de voir certains élèves se révéler, parce qu'il n'était plus dans ce contexte scolaire qui souvent met la pression à certains élèves qui ne se sentent pas à l'aise avec ça aussi.
C'est tout l'intérêt de la pédagogie par projet.
Moi, je dirais juste que l'interdisciplinarité, c'est très bien quand c'est très bien fait. Et là, c'est un exemple effectivement fantastique, d'ailleurs, qui a été mis en valeur par le ministère. Bon, sauf que la réalité, elle est pas si rose, et que les professeurs, quand on les force à travailler ensemble et qu'ils ont pas envie, ils vont faire le truc à minima. Ils vont faire le truc le plus facile, ils vont pas forcément se donner la peine de faire quelque chose d'intelligent, etc. Et puis ils ont pas, le prof de PS s'entend pas avec le prof d'histoire, donc il a pas envie de travailler avec lui. C'est ça aussi qu'il y a derrière.
Ah, ça, les relations de travail. To go, have no place to go, darling. Have no place to go, have no place to go. Groupe Nantais, C2C et son titre Down the Road. Merci à tous pour ce débat. On va faire le pas de côté dont je vous parlais en début d'émission. On va à Marseille.
Il faudrait mettre la police de partout. Calmer un peu tout ce qui se passe dans les quartiers nord. Parce que si la police n'est pas là, il y aura tout le temps des bavures comme ça. Et ils en tueront tout le temps et ce ne sera pas fini. Ne vous inquiétez pas, monsieur, les meurtres, il y en aura beaucoup. Je vous le dis, moi. qu'ils viennent la police, ils nous mettent la police dans les quartiers. Les gens, ils auront peur de faire des trucs dans les quartiers, venir comme ça en voiture voler, tirer. Comment vous voulez qu'ils viennent s'il y a la police? Ils viennent pas. Même l'armée, c'est bien. Bien sûr, quelque chose qui peut te protéger, qui protège quand même les cités. Les enfants, ils peuvent même pas sortir. Ils sont venus à la cité passée, ils sont rentrés dans le magasin, ils ont tiré. Il y avait des enfants. Il y avait des enfants de 8 ans, de 9 ans dedans. On n'est plus en sécurité.
Karim, un habitant de la cité Bassins dans les quartiers nord de Marseille, interrogé en avril dernier après une fusillade qui avait fait 3 morts. Bonjour Marie-France Etchegouin.
Bonjour.
Vous publiez chez Stock Marseille le roman vrai, un roman mais aussi une vraie enquête de journaliste sur cette ville gangrénée par les trafics, la corruption et la violence. Avant toute chose, Marie-France Etchegouin, vous aimez Marseille où vous avez vécu?
Oui, j'ai vécu 4 ans à Marseille et j'adore cette ville. Oui.
Ouais, et vous nous dites que l'image qu'on peut avoir de Marseille, notamment avec l'accent de cette région, l'inventivité linguistique dont vous nous parlez, bien cette bonhomie de la ville n'est qu'un masque.
On en est, je crois, au 13e mort cette année.
14e, un jeune homme de 23 ans, tué mercredi soir, et la nuit dernière, un autre blessé au thorax par balle.
Et donc ça fait, je crois, à peu près 100 morts en moins de 10 ans à Marseille. C'est une espèce de bruit de fond constant auquel on finit par ne plus prêter attention quand on vit plus à Marseille. Et moi, dans mon livre, tout est vrai. Tous les personnages connus ou moins connus sont tous réels. Et je raconte, il y a parmi les personnages de mon livre des assassinés, des assassins dont je raconte la destinée. Je raconte leur ascension, leur chute ou leur façon de franchir différents obstacles. Mais il y a aussi, par exemple, Jean-Marie Guérini, l'ancien président du Conseil général, dit Nono. Est-ce que il finira un jour par être jugé? Il y a aussi un autre Nono de la Castellane, de la cité de la Castellane, qui tenait le trafic de drogue le plus important de Marseille, voire de France. Est-ce que ce Nono-là finira-t-il par être arrêté? Est-ce que Zinedine Zidane, qui est né dans cette cité de la Castellane, reviendra un jour dans cette cité, comme il l'avait promis un jour aux habitants? Est-ce que Eddy, un autre personnage de mon livre, qui est en prison, accusé d'avoir tué un garçon de 17 ans à la Kalachnikov, est-ce qu'il parviendra vraiment à commanditer un autre meurtre alors qu'il est emprisonné depuis la cellule de sa prison? Je raconte toutes ces destinées qui s'entrecroisent comme ça, qui s'entremêlent et qui racontent aussi en creux cette ville, ce qu'est cette ville.
Dans un décor, voilà la ville, les quartiers nord, les quartiers sud, avec un pont, une passerelle.
Oui, parce que souvent on raconte soit les quartiers nord d'un côté ou les quartiers sud, les quartiers dits bourgeois. Je pense que c'est les deux faces de la même ville. Donc je vais d'une partie de la ville à l'autre avec disons, au centre, ce fameux cercle des nageurs qui est devenu célèbre aujourd'hui, puisque c'est là que s'entraînent les plus grands champions olympiques français. Et c'est un club pour athlètes, et c'est aussi un club où il faut être parrainé, qui coûte assez cher, des gens plutôt bien nés dans la ville vont déjeuner au restaurant, profiter de toutes les infrastructures et des piscines. C'est un très très beau lieu, et c'est aussi un peu un miroir déformant de la ville. On s'y retrouve des élus, des journalistes, des entrepreneurs, des agents immobiliers, dont le mari de Christine Lagarde, par exemple. Voilà, tout un petit monde. Et où en concentré, il y a aussi toutes les querelles politiques byzantines de cette ville. Et voilà, c'est à la fois un miroir aux alouettes et un miroir déformant de la ville aussi.
Alors, dans ces deux quartiers, de part et d'autre du cercle des nageurs, il y a une porosité entre les deux quartiers, les habitants, personnages.
Alors ce que je trouve très romanesque dans cette ville, et c'est pour ça que je l'appelle le roman vrai, parce que la ville est romanesque, les situations sont romanesques, les personnages sont absolument incroyables, et plus qu'ailleurs, on a l'impression à Marseille que beaucoup de choses sont connectées. Si vous soulevez une pierre, vous avez plein d'histoires en dessous et des gens dont vous ne soupçonniez pas qu'ils connaissaient un tel ou un tel. Voilà, vous découvrez tout ça, et il y a cette porosité pour le meilleur et pour le pire, j'allais dire, la porosité du légal et de l'illégal, entre les notables et les malfrats, entre les policiers et les truands, mais aussi c'est une ville cosmopolite, c'est une ville avec des trajectoires fabuleuses de gens qui sont nés dans un bidonville et puis qui deviennent élus, ou les règlements de compte que je raconte le règlement de compte entre deux familles à Marseille, deux familles de l'immigration algérienne, et qui explique presque la moitié des règlements de compte ces dernières années à Marseille. Eh bien, des deux côtés, on a des gens qui se sont parfaitement intégrés, des gens qui ont fait carrière dans le crime, entre guillemets, le trafic de drogue, etc., des gens qui ont été tués, des gens qui ont tué, et on a aussi des élus à gauche, à droite, jusqu'à la mairie de Marseille, puisqu'il y a l'adjointe au maire de Marseille. Et donc, toutes ces histoires-là, c'est pas des excroissances de Marseille, c'est pas des, les quartiers nord, c'est pas des monstres. C'est aussi, ça tisse l'histoire de cette ville. Et pour la comprendre et pour l'aimer, il faut aussi aller voir là. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de me mettre à hauteur humaine, quoi, de tous ces personnages, et d'essayer de comprendre ce qui les motive, ce qui les anime. Voilà.
Alors, vous avez rencontré aussi des magistrats, des policiers, vous avez eu accès à des procès-verbaux, à des écoutes téléphoniques, et l'un des personnages de votre livre, notamment, qui est en prison, passe ses journées au téléphone avec un correspondant, Banane, et il règne depuis sa cellule.
Oui, ce qui m'a fasciné, c'est que j'avais d'un côté, bon, j'ai évidemment
été. Et puis sur l'instant-là, tout est retranscrit.
Oui, j'ai été sur le terrain, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai beaucoup de documents judiciaires et notamment d'écoutes dont certaines sont inédites. Et y a ces écoutes entre ce jeune qui est donc poursuivi pour meurtre sont vraiment passionnante. Moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. C'est-à-dire que ça permet de rentrer aussi dans l'imaginaire de ces jeunes hommes qui s'entretuent en ce moment à Marseille. Souvent, ils sont désignés par une initiale, un nom, encore un homme tué par balle, etc. On connaît rien de leur vie. Et là, c'est absolument passionnant de voir comment ils parlent, de quoi ils parlent, et effectivement cette violence qu'ils ont en eux, et ils parlent de meurtre, de mort, de partage de territoire, etc. Et au milieu, ils vont parler du dernier scooter, ou alors là, ils sont tous les deux en train d'imaginer les prochains règlements de compte qu'ils vont mettre en œuvre de manière imaginaire ou réelle. Et puis ils se font écouter le film de Michael Mann, Heat, qui est l'histoire d'un hold-up sanglant, et puis ils se font écouter au téléphone, il y en a un qui est dans sa cellule et l'autre qui est dehors, écoute le bruit de la calache, et ils sont là, tac, 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 tac. Et avec ces écoutes, on peut presque les suivre au jour le jour, dans la préparation de leur vengeance. Et effectivement, alors l'affaire n'a pas été jugée, mais presque en direct, ce qui m'a fasciné dans cette enquête, c'est qu'il y a un jeune homme qui effectivement va mourir, va être assassiné, qui est d'ailleurs le neveu de la fameuse adjointe au maire de Marseille.
Même chose avec Alexandre Guérini.
Oui, alors ça m'a beaucoup
Monsieur Frère.
Oui, j'avais les écoutes aussi, qui sont un peu plus connues, celles-là, mais qui n'ont pas été toutes totalement exploitées, entre les deux frères, entre Jean-Noël, l'élu, et Alexandre, l'homme d'affaires. Et là aussi, on a des morceaux absolument d'anthologie, sur le plan du langage, évidemment, ça ressemble à du Audiard, et aussi sur le plan des mœurs, sur le plan de comment ça se passe. C'était intéressant de voir comment ça se passe dans les quartiers sud. Alexandre Guérini, il dit « Moi, quand je m'énerve, c'est pas grave. Mais quand je souris, c'est très grave. Et avec moi, tu vas rigoler. Tu vas voir comment tu vas rigoler. » Il dit « J'ai derrière moi une armée de petits jeunes pour 5000 euros. Ils peuvent te découper une famille entière. » Je trouvais intéressant de, au fil des chapitres, alterner entre cette violence des quartiers nord et cette violence des quartiers sud, plus symbolique, certes, recyclée dans les urnes ou les affaires, mais qui est là aussi.
Vous êtes allée dédicacer votre livre à Marseille, Marie-France Etchegoin ?
Oui, j'ai été plusieurs fois dédicacer mon livre à Marseille. J'ai rencontré plein de gens qui ont beaucoup aimé le livre, évidemment. Et puis, des choses un peu surprenantes, notamment les amis de ce nono de la Castellane qui m'ont demandé de dédicacer le livre. Des gens qui étaient très mécontents, qui m'ont d'ailleurs poursuivi en justice et qui ont perdu. Des bourgeois marseillais qui, dès que je prononçais le mot porosité, sortaient de la salle en disant « Mais enfin, porosité, Marseille bashing, comment pouvez-vous dire ça ?» donnez-nous un exemple, etc. Je dis, bah, lisez le livre. Ouais. Puis il y avait un journaliste de la Provence qui disait, bah, venez avec moi au tribunal, venez à Marseille, vous verrez toutes les affaires. Qui leur lui donnait encore un exemple de tel fonctionnaire, tel employé, tel élu, etc. Voilà, c'est toujours très instructif, ces signatures.
Marseille, le roman vrai chez Stock. Merci, Marie-France.
Merci à vous.
Le clin d'œil de l'émission de Yacine Bouzard sur une autre actu de la semaine, bras de fer et gants de boxe entre le gouvernement et la CGT.
Voilà, c'est parti dans quelques instants. Championnat du monde des poids moyens devant 15 356 spectateurs. Un affrontement que l'on n'osait pas espérer.
Je demande à la CGT de ne plus organiser ce type de manifestation sur Paris.
Deux très très beaux athlètes, bien préparés physiquement.
Il n'y a aucune relation entre ce que font les casseurs et les manifestants.
Une attaque gauche-droite de Léonard, là qui passe une gauche.
Les mouvements qui sont prévus sont maintenus.
Et là, il se défend bien, Léonard. Il essaye de passer une série.
Ces commerces qui ont été cassés avec l'hôpital Necker qui a été dévasté.
Débauche de puissance, c'est vrai. Des images très belles, très impressionnantes.
Et au cas par cas, nous prendrons, nous, nos responsabilités.
Et Hagler qui doit être un peu excédé de voir que Léonard est toujours là, qu'il continue à le larguer.
Interdire de manifester dans ce pays, c'est remettre en cause la démocratie.
Et regardez ces séries avec ce travail des bras en crochet.
Le gouvernement veut brouiller les pistes.
Et Schubert Léonard qui met toute sa force de frein.
Nous pensons qu'il y a besoin que le gouvernement suspende.
C'est absolument incroyable.
Le débat parlementaire.
Quel match.
Sur la loi travail.
Quel match.
Le texte sur la loi travail n'évoluera pas. Ça n'est pas une posture.
La punch, la puissance est encore là, mais la vitesse n'est plus là.
C'est parce que nous pensons que c'est un texte qui, encore une fois, répond à l'intérêt général.
La fatigue, c'est terminé, fin du championnat du monde.
Merci à tous, l'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Véronique Fèvre, journaliste à BFM TV en charge des questions d'éducation, Marie-Estelle Pêche, spécialiste éducation au Figaro, Isabelle Dautrême, journaliste à L'Étudiant, et Hakim Kasmi, grand reporter à France Culture en charge notamment de l'éducation. Merci également à Marie-France Etchegouin, journaliste, ancienne rédactrice en chef à l'Obs, pour votre livre Marseille, le roman vrai, édité chez Stock, notre regard extérieur qui nous a accompagnés aujourd'hui. Jean-Marie Charon, sociologue, spécialiste des médias. Dans les coulisses de l'émission, Chloé Leblanc, Mathias Mégy, Vincent Abouchard, avec aux manettes aujourd'hui Yanis Djoudad. Dans un instant, le journal de Margot Delpierre, suivi de répliques. Promenade avec La Fontaine, Alain Finkielkraut reçoit Jacques Reda et Jean-Yves Tadier. C'était Le Secret des Sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal réplique. Bonne journée sur Culture.
L'éducation, c'est un sujet très clivant. On le voit même nous en conférence de rédaction. Vous ouvrez des barrières autour de la table chaque matin quand on prépare les journaux. Tout le monde a son avis, effectivement. La petite comparaison avec le football, c'est qu'effectivement, pour l'éducation, on a 65 millions de sélectionneurs. Et pour l'éducation, c'est pareil. On a 65 millions de commentaires où chacun a son avis sur le bac, sur la réforme du collège, sur l'atmosphère scolaire.
Lorsqu'on est journaliste, on trouve que des mécontents ou pas que ?
Quasi. Quasi, à part quand même moi je trouve. Si, si, c'est ce qu'on entend le plus.
Les gens qui sont ravis de cette réforme, franchement, j'en ai pas rencontré moi. À part peut-être chez certains syndicalistes proches du ministère, j'en ai pas rencontré.